RCF. Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Nous nous retrouvons et sans revenir trop loin en arrière dans nos dernières discussions, j'aimerais que nous abordions un point sensible qui est très lié à tout ce que nous avons déjà dit, notamment sur les questions d'exercice du pouvoir et donc des responsabilités. Y a-t-il de bons, de moins bons chefs? Peut-on donner plus de pouvoir, donc plus de responsabilités à tout le monde ou à peu près n'importe qui? C'est d'ailleurs un des aspects que vous soulignez particulièrement dans votre livre « Remettre l'homme au cœur de l'attention ». Mais l'attention de qui? Je me tourne, Yann.
Oui, parce que les acteurs dans l'entreprise sont très nombreux, avec des fonctions très diverses, les services centraux, les services techniques, les boss, les chefs, ceux qui ont directement en charge les équipes, alors. Attention de qui? Du oui. Patron, là-haut, dans ses boquettes?
Oh, bah oui, bien sûr, il faut commencer par lui. Et comme on le sait, un escalier se balaye mieux par en haut que par en bas. Enfin, essayer de faire l'expérience par en bas, ça marche pas très bien. Donc, s'il y a une mise en ordre à faire, il faut la faire par en haut. Il faut d'abord la faire auprès de ce qu'on appelle la ligne hiérarchique, c'est-à-dire l'empilage des chefs. Il y a une question toute simple à se poser, c'est est-ce que un patron est prêt à confier ses équipes à n'importe qui? Et si jamais c'était le cas, quels seraient les objectifs principaux donnés à ces n'importe qui? Bon, quand on pose la question de cette façon-là, on se rend bien compte de l'absurdité de la chose. Ou en tout cas du manque de sagesse qu'il y aurait à confier des équipes à n'importe qui.
Ah, il faut les confier à un expert dans le domaine.
C'est très curieux ça, parce que ça a correspondu à des modes de promotion dans les entreprises dans le passé, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, encore que c'était le plus compétent techniquement qui devenait le chef. Ce qui peut se comprendre d'une certaine façon, parce que la maîtrise du métier permet effectivement d'acquérir une certaine crédibilité et permet d'être écouté par ses collaborateurs, mais ça ne suffit pas. Il y a dans le fait de s'occuper des gens, de s'occuper d'autrui, de faire fonctionner une équipe, il y a un vrai métier, il y a une vraie activité, il y a une vraie spécificité.
C'est un métier pour vous, s'occuper
d'une équipe. Bien sûr, c'est un métier à part. C'est un métier à part et on le voit très très bien. Ça repose en fait sur quelques aptitudes qu'on pourrait mentionner. La première aptitude peut-être, c'est de comprendre... avoir une capacité de comprendre comment fonctionnent les bipèdes qui nous entourent. Il y a des esprits très qualifiés, très brillants, très compétents, qui sont absolument incapables de comprendre l'humain, le fonctionnement d'un être humain. Et donc, confier les équipes à des personnes comme cela, c'est évidemment aller droit à l'échec.
Vous le mettriez en priorité par rapport à des capacités techniques et des compétences techniques?
Dans la mesure où on pense que un responsable d'équipe a une valeur ajoutée sur le fonctionnement de son équipe, sur le développement de chacun, sur le développement de la performance collective, c'est une évidence. Si le responsable d'une équipe ne sert qu'à remplir des données dans des tableaux de bord qui servent à des reporting qui vont ailleurs, évidemment, on n'a absolument pas besoin de qualité humaine.
D'accord, donc vous mettez l'accent sur les capacités humaines à diriger une équipe avant tout.
Bien sûr.
Et alors qu'en est-il de personnes qui, elles, n'ont pas en charge d'une équipe, mais qui ont, et de plus en plus dans les entreprises, un rôle important? Je pense à tous les experts dans les différents domaines.
Alors, on observe également, effectivement, dans les entreprises, ce qu'on appelle de plus en plus d'organisations transversales, où les repères hiérarchiques traditionnels sont troublés. Et de plus en plus, donc, des experts sont appelés à exercer leur activité en tant que prestataires de services internes à l'intérieur des entreprises, et donc à exercer une influence réelle sur le fonctionnement de l'entreprise et sur leurs collègues de travail. Plus les organisations sont complexes et plus les lignes de prise de décision sont variées et complexes, et plus il est nécessaire en fait de partager ce qu'on appelle une culture commune, c'est-à-dire des règles communes, une vision commune de la façon de travailler ensemble. Ça, c'est absolument capital. Et cette vision commune de travailler ensemble, on l'a un petit peu évoqué lors de précédentes émissions, notamment sur les règles de prise de décision, sur les règles de consultation, sur le respect de chacun dans le domaine de responsabilité. C'est absolument important d'avoir une vision commune de tout cela. Plus l'organisation est complexe, plus le fonctionnement est complexe, et plus il est impératif de partager une culture commune.
Est-ce que je pourrais dire que aussi bien les managers que les gens qui sont là pour apporter leur expertise, doivent être animés par un souci des hommes, un intérêt pour les hommes? J'allais employer un mot que vous avez déjà employé dans de précédentes émissions, un amour des hommes, un amour du personnel, un amour des gens, l'intérêt qu'on a pour les gens.
Alors je vous propose de répondre à cette très bonne question après une courte pause musicale. Yann, vous nous avez laissé sur une excellente question. Pouvez-vous nous la reformuler rapidement pour que notre ami puisse tenter une brillante réponse?
Je ne sais pas si c'était une question intéressante. Simplement, je repensais à une chose, c'est tout simplement ce que tout catholique connaît, c'est son acte de charité qui dit « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus tout, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. » Et donc, cette orientation des managers, de tous les gens qui ont un impact sur le travail des autres, est-ce que ça rejoint pas un peu cet acte de charité?
Alors ça pourrait le rejoindre, effectivement, et c'est un champ de progrès qui est quasi infini, on n'en a jamais terminé, avec cette invitation à vouloir le bien de ceux qui nous entourent. Et de toute évidence, lorsque une personne se voit confier une responsabilité sur autrui, elle est invitée, et plus qu'invitée, à mettre en œuvre ce qui est indispensable, en fait, pour permettre à chacun de grandir, de progresser en équipe et d'atteindre les objectifs qui concourent à la poursuite du bien commun de l'entreprise. Et c'est peut-être le moment, effectivement, de dire que dans un certain nombre d'entreprises, les attentes formulées par les dirigeants vis-à-vis des responsables d'équipe ont été rassemblées en trois grandes familles, en fait. Il y a un premier axe qui consiste à mettre en valeur les personnes qui nous entourent. Ça veut dire quoi, mettre en valeur les gens? C'est pas les faire monter sur un piédestal, c'est s'occuper de les connaître, c'est s'occuper de leurs talents, c'est s'occuper de les faire grandir dans leurs talents, c'est les former, c'est les développer, etc.
Les informer, les impliquer, etc. Dans les décisions,
etc. Et là, il y a un rôle très actif, et en fait, c'est une valeur ajoutée, évidente, apportée par un encadrement qui est attentif aux soins des collaborateurs. Mmh. La deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle généralement l'esprit d'équipe, qui est un petit peu une tarte à la crème, mais on voit quand même ce que ça veut dire. Et donc c'est l'esprit de cohésion sous-jacent qu'il faut renforcer et qu'il faut d'une certaine façon guider et encourager. Et donc l'esprit de cohésion, c'est quoi par exemple? Prenons l'exemple de la liberté d'expression. Je dis que la liberté d'expression devrait être considérée comme un devoir, et cette liberté d'expression est d'autant plus importante lorsque les choses vont mal. C'est à ce moment-là on en a le plus besoin. Et donc il faut être capable à l'intérieur d'une organisation d'entendre les bonnes comme les mauvaises nouvelles, mais c'est surtout les mauvaises nouvelles qui sont importantes. Et il faut que les gens qui portent les mauvaises nouvelles, on ne leur coupe pas la tête. Et donc il y a une façon de faire pour ça, il y a une façon d'encadrer les remontées d'informations pour entendre les choses qui sont dérangeantes dans un esprit de cohésion, c'est-à-dire s'entorpiller les personnes dans leur domaine de responsabilité. Et puis le troisième axe, c'est tout ce qui relève, et qui est lié au précédent, c'est tout ce qui relève de la force de proposition. C'est-à-dire que dans le travail, dans tout travail, dans tout métier, il y a une action de transformation des choses, une action de transformation du réel, et il y a notamment des actions de progrès. Les choses, pour les gens passionnés par leur métier, ça ne fait aucune espèce de doute. Ce qui donne du sens à ce que l'on fait, ce qui donne du goût à ce que l'on fait, c'est le progrès. Et le progrès se nourrit de l'échec, et le progrès se nourrit de la confrontation avec les idées des autres, etc. Et donc, manifester une force de proposition, là aussi, d'une certaine façon, encadrée, ça permet de faire grandir les gens individuellement, et ça permet de renforcer les liens d'équipe, ça permet de développer l'amitié à l'intérieur d'une entreprise, et in fine, c'est d'une fécondité assez extraordinaire quand on veut bien regarder comment les choses se passent.
Alors, Monsieur Janson, je comprends bien, mais je vois là quand même beaucoup de choses, et ces trois axes extrêmement qualitatifs, si je puis dire, dans la performance de l'entreprise. J'ai pas entendu parler de beaucoup d'indicateurs économiques, de résultats, de choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques aspects à prendre en compte aussi?
Bah, c'est très simple. L'exigence de résultats, c'est une évidence. Toute entreprise doit respecter une exigence de résultats. C'est pas la peine de passer beaucoup de temps là-dessus. Ce qui compte, c'est la façon de parvenir aux résultats. Et donc, ce qui compte, c'est le modèle d'obtention des résultats de l'entreprise et plus que les tableaux de bord qui vont en rendre compte. Donc, s'il y a de l'énergie à mettre, c'est pas à la considération des tableaux de bord et au reporting. C'est à la concentration sur tout ce qui va permettre aux personnes, aux individus, aux équipes, d'être efficaces tous ensemble.
Est-ce que ça veut dire concrètement que vous, en tant que dirigeant d'entreprise, quand il s'agissait de porter un jugement sur la qualité de service d'un collaborateur, les résultats, bien sûr, étaient regardés, c'est la chose qui saute aux yeux, mais que vous insistiez essentiellement sur les facteurs que vous avez évoqués, mise en valeur, cohésion, proposition?
Mais pour moi, c'est une évidence de bon sens. Le résultat est évidemment très important, mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est ce qui précède l'obtention du résultat.
En d'autres termes, c'est bien la politique de l'entreprise qui permet
à nouveau
de concilier l'intérêt de la personne et l'intérêt de...
Tout à fait.
De l'importance de la manière dans l'obtention du résultat. Eh bien, merci, chers amis, pour cette excellente discussion.